Bonjour
et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui tente les transitions et qui vous casse les oreilles à saturer comme un bourrin. Bonjour Timo.
J'ai la pêche aujourd'hui.
Oh, et t'as la patate, c'est terrible. Oh, ah, c'est beaucoup mieux qu'il y a 15 jours. Hein.
C'est ça, c'est le café. Il est gringo, il est fort ton café.
Donc, nous sommes de nouveau de retour au 1A Club. Nous allons parler de BD comme d'habitude. On a une émission normale aujourd'hui. Presque normale.
Non, je l'ai vu, normale aujourd'hui.
Bah, on n'a pas toutes nos rubriques habituelles, on rattrape un peu tout le retard qu'on a pu prendre sur nos diverses lectures, on a été très pris ces derniers temps quand même. Donc c'est un peu une émission de rattrapage, beaucoup. Même si on va considérer qu'on a nos nouveautés, même si maintenant elles ont un ou deux mois pour certaines d'entre elles, et notre gros rattrapage, les trucs vachement plus vieux. Nous attaquons donc avec le Presque Neuf. Et... La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Century, tome 1, 1910. N'est-ce pas un beau titre à rallonge ? C'est chez Delcourt, c'est scénarisé par Alan Moore, dessiné par Kevin O'Neill, et ça coûte... Vas-y, donne le code prix.
DE35.
Delcourt, c'est des codes prix. Je commence à maîtriser un peu les éditeurs. Donc... La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, pour ceux qui ne connaissent pas, Alan Moore s'amuse à reprendre des personnages de la littérature populaire. On en a un peu parlé du même genre d'approche avec la Brigade Chimérique, dont on reparlera d'ailleurs plus tard, vu qu'on a... Voilà. Donc de la littérature populaire, et il y a eu un super film qui vous résume vachement bien le genre de concept, mais oubliez le film car ça n'a rien à voir, la bande dessinée est quand même beaucoup plus subtile. Il y a eu deux tomes qui sont parus, avec comme personnages principaux Alan Quaterman, Wilhelmina Harker, l'homme invisible, le docteur Jekyll, le capitaine Nemo.
Le capitaine Nemo.
Je crois qu'on les a...
Et Dorian Gray.
Non, c'est que dans le film, Dorian Gray. Si, Dorian Gray, c'est que dans le film. Si. Oui, c'est que dans le film, Dorian Gray. Oh là là, là là, le doute que tu as. Attention. Pause magique, vérification sur Internet. Après vérification. Alors, nous ne sommes toujours pas d'accord et nous pensons tous les deux avoir raison. Dorian Gray ne fait pas partie de l'équipe.
Oui, mais il y a deux posters de Dorian Gray dans le premier tome de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires.
Voilà. Donc, bon, tu chipotes, mais je trouve qu'il n'est pas présent. Revenons sur cette histoire de Century, tome 1, 1910. Elle est assez complexe. On suit plusieurs personnages en parallèle. On suit la fille du capitaine Nemo.
Tout à fait.
Qui rejoint Londres pour essayer de s'émanciper, en fait.
C'est ça.
Et on suit la nouvelle ligue.
Qui est une belle équipe de bras cassés.
La Ligue des bras cassés extraordinaires.
Mais extraordinaires, les bras cassés.
Bon, en gros, il y en a un. Alors, déjà, c'est des personnages qui sont moins connus que dans les précédents tomes. En tout cas, moi, je ne les connais pas, la plupart. Je pense que c'est la littérature populaire anglaise qu'on connaît peu, en fait, de par chez nous. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est un petit peu plus. C'est un peu plus le néant. Tu connaissais, toi, comment il s'appelle le gars Calévision? Non, ça te dit rien du tout.
Non, rien du tout. Rien du tout.
Bon, bref, le gars a des visions de fin du monde, de destruction, etc. Et donc, ils mènent leur enquête et en fait, ils vont nulle part, quoi. C'est n'importe quoi. C'est vraiment les dandys du début du siècle, enfin du siècle dernier maintenant, qui passent leur temps à picoler, à faire des soirées, à discuter pour refaire le monde.
Et qui, pour se faire peur, jouent à faire des trucs occultes.
Voilà. On retrouve quand même Mina, qui est toujours présente dans l'équipe, le fils d'Alan Quaterman. Donc il y a cet occultiste qui a des rêves, des visions.
Karnacki.
Karnacki.
Finalement, oui, le nom disait quelque chose, mais je ne sais plus d'où.
Ouais, alors, pareil.
Je pense, Tu vois, je l'avais dit, un vieux scénar de Cthulhu que j'avais lu.
C'est possible. Et un personnage que j'aime beaucoup, c'est l'hermaphrodite.
Oui.
Dont pareil, je ne me souviens plus du nom parce que c'est des personnages que je ne connais pas très bien. Qui en gros est un personnage qui des fois est un homme, des fois est une femme et qui est immortel. Et qui se la pète, qu'il n'en peut plus, mais qui est aussi un bras cassé que les autres en fin de compte. Oui, alors tu es en train de relire, ça y est, on va avoir des blancs parce que tu es en train de relire.
Mais je ne suis pas en train de relire, bon ça va, écoute, je referme.
Ça. Bref, l'histoire est intéressante. Il y a tout. Alors, on est chez Alan Moore, et Alan Moore, c'est un intello avec une culture très, très, très costaud. Et il arrive, pendant tout son bouquin, à nous faire un parallèle avec l'opéra de Katsu de Bertolt Brecht. Donc, on est vraiment dans quelque chose de. Je dirais. Comment dire, dense au niveau du sens, au niveau du contexte. Les dessins de Kevin O'Neill sont égaux à eux-mêmes. On aime ou on n'aime pas, c'est un style très particulier, qui a un petit côté gravure. Je trouve que ça colle très très bien à la ligue, à cette BD-là. Même si c'est vrai que c'est ce ton un peu passé. Mais là, le scénario, bah, déjà j'ai eu l'impression qu'il me manquait quelque chose. Mais vraiment qu'il me manquait un truc. Et effectivement, il nous manque un truc. Il y a eu les dossiers noirs, ça s'appelle, les black dossiers en anglais, de la Ligue, qui sont sortis en Angleterre, aux États-Unis, et qui apparemment n'ont pas pu sortir en France pour des questions de droit. Pourquoi ? Parce que, à ce que j'ai cru comprendre, Alan Moore fait référence à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de culture populaire très variées, et qu'en France, bah, il aurait fallu faire appel à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ayants droit pour pouvoir le publier. Alors il me semble que ça a peut-être été publié avec le film en hors-série machin chose, mais franchement acheter le film pour avoir un bonus, ça me ferait mal. Mais ça me ferait mal. Hein.
De quoi, d'acheter le film ou le
bonus? D'acheter le film. Ouais, le bonus, j'achèterais le bonus et j'aurais le film l'inverse.
Non, en fait, j'achète le bonus et
ouais, j'ai le film en cadeau. Voilà. Voilà, film bon. Film qui avec le recul en fait est pas un mauvais film mais une très mauvaise adaptation.
En fait, il faut pas avoir lu. Enfin, tu lis la bande dessinée, puis ensuite tu vas voir un film d'action.
Voilà, rien à voir, mais un film d'action décérébré.
Oui.
Voilà. Bref, je saurais pas trop dire si je le recommande ou pas, parce que voilà, à la fin du tome, il y a une série de nouvelles écrites qui racontent un petit peu et qui font découvrir des choses géniales que j'ai trouvées scénaristiquement super intéressantes. Et je me demande si c'était pas des révélations qu'on avait déjà eues avant. Qu'on aurait dû avoir avant dans les dossiers noirs.
Ah, peut-être.
Voilà. Donc, lisez la fin si vous le chopez, parce que c'est intéressant. Bref, c'est pas mauvais, mais. Donc, ça reste à suivre, hein, quand même. L'histoire est encore ouverte. J'espère qu'on n'aura pas que des bras cassés dans la prochaine.
Oui, mais justement, par rapport aux révélations, sachant ce qu'on sait, ça m'explique pas comment est-ce qu'ils font pour être aussi mauvais, quoi.
Ouais.
Voilà. Moi, il y a eu un souci là-dessus. Je trouve que bon, c'est.
Ce qui est très difficile dans ce tome-là, c'est qu'ils ont rien d'extraordinaire en fait. C'est ça qui est vraiment choquant, c'est que on s'attend à voir ces personnages qui étaient vraiment génial, compétents, intéressants des premiers tomes, et là, bah, attends, une équipe de bras cassés comme personnages principaux, mais on voit rarement ça. En général, c'est les gens qui réussissent, les héros, quoi. Enfin, c'est pas les héros là. Je dirais les protagonistes.
Ils arrivent à faire exactement tout ce que tu te dis quand tu regardes un film qu'il ne faut pas faire. Tiens, on doit enquêter sur le méchant. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on sait rien sur lui. Bon, on va rentrer chez lui, hein, comme ça, de manière presque furtive. On rentre chez lui. Bon, du coup, forcément, il nous chope, hein. Et là, on se fait un peu casser la bouche. Et on repart comme on est venu. Bon.
Voilà. Donc on a.
C'est des gentlemen.
Voilà. Ouais. Donc pour ceux qui aiment un petit peu tout ce qui est un peu technique, on a encore une présence du Nautilus. Et en parlant de bateau, justement, nous allons passer à Panique en Atlantique, le nouveau Spirou par Fabrice Parme et Lewis Trondheim.
Magnifique transition,
dis-moi. Ah là là, t'as vu un peu comme chelou, j'ai réfléchi hein, là-dessus.
Donc nouveau Spirou. Et là. C'était avant le drame.
Ah, vas-y. Déjà, de quoi parle
de quoi ce parle nouveau... ce Spirou ? Donc Spirou se retrouve, on va dire, malheureusement... Il y a des trucs qui tombent. Se retrouve malheureusement, on va dire, son hôtel a été revendu Et à une grande société, cette société doit recruter un groom pour aller sur son bateau qui fait les transatlantiques.
Donc c'est le Spirou de l'époque du moustique, des tout débuts de Spirou. Voilà.
Donc Spirou se retrouve donc désormais groom sur un grand transatlantique qui ressemblerait un peu aux France, je crois. Hein, il me semble de mémoire que ça ressemblerait à peu près. Hein. Deux cheminées, noir et rouge. Enfin bon. Le dessin est bon.
Là, attends. C'est juste qu'il rentre sur un bateau, c'est ça l'histoire?
Il y a autre chose pour toi?
Bah, il y a une invention de Champignac qui foire. C'est ça qui fait un peu l'intérêt, on va dire, quand même. Bon, en gros, quand même, moi, vu ton résumé, j'ai bien l'impression que tu as super, super pas adoré. T'as été déçu.
Bah non, je l'ai lu, mais très honnêtement... Voilà, c'est, voilà, tu vois, je dirais que la couverture résume en elle-même tout le truc, quoi. Tous les personnages qui courent un peu dans tous les sens autour, on va dire, du bateau, ben, c'est un peu ça l'idée. Alors, c'est vrai que ça reprend exactement le scénario, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu la panique et tout, mais ouais, j'ai trouvé que le scénario, ouais, ça partait un peu dans tous les sens. Le dessin est bien, mais il n'est pas transcendant non plus. Pas follement emballé, voilà. Très franchement, pas follement emballé.
Moi, disons que j'ai pas été follement emballé non plus, mais j'ai trouvé sympathique, surtout vis-à-vis de son approche en fait. Il y a vraiment une, j'ai eu l'impression qu'il y a une volonté de Trondheim au niveau du scénario, hein. Et aussi de Parme au niveau du dessin, d'avoir ce côté années 50 au niveau de l'intrigue. On a un côté un peu la Panthère Rose, tu vois, au niveau de ces personnages avec une succession de gags et puis le style graphique qui fait penser à
succession de gags, oui, ça je suis voilà. D'accord.
C'est de la succession de gags, hein. On a un fil conducteur qui nous donne un peu l'intrigue, mais on a ce Spirou naïf qu'on pouvait peut-être avoir dans les premières histoires. Je parle pas de celle de Franquin, hein. Je te parle de celle qu'il y avait avant, hein. Robvel c'était JG, je crois, qui a repris après. Enfin bon, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas eu l'impression d'avoir une vision d'auteur, alors que ce que j'attends de cette collection-là, c'est d'avoir la vision d'un auteur sur un personnage et donc reconnaître cet auteur-là. J'ai pas reconnu l'humour de Trondheim partout. Je dis pas que j'ai pas souri, parce qu'il y a quelques gars qui sont assez sympas quand même, mais j'ai pas retrouvé. Je trouvais que son précédent Spirou à Trondheim, celui qui est sorti sous le titre de Lapino, l'accélérateur atomique, je crois, était beaucoup plus proche de Spirou, justement. Enfin, me donnait vraiment plus. Le Spirou par Trondheim. Et là, moins. Je sais pas, j'étais un peu plus déçu. Ça reste un bon Spirou quand même. Mais par rapport au précédent de cette collection, il déçoit un petit peu. Surtout que les deux derniers étaient vraiment exceptionnels. Le groom vert de gris et... comment il s'appelait l'autre le journal d'un... ingénu. Journal d'un ingénu. Voilà. Voilà pour ce Spirou, donc chez Dupuis, scénarisé par Lewis Trondheim, dessiné par Fabrice Parme. Ça doit coûter combien? Est-ce que c'est un... Non, c'est Dupuis, c'est un vrai prix?
DU06.
Oh, même chez Dupuis, ils s'y mettent. Mmh. Oui, bah, ça doit coûter dans les, je dirais, entre 12 et 13 euros, dans ces eaux-là.
Ouais, à peu près. Ça serait le prix à peu près d'une BD, quoi.
Voilà. Et donc, ce Spirou, c'est vrai qu'on retrouve ce côté. Attends, je tente la transition. Là c'est moins bien, hein, mais. On retrouve ce côté un petit peu vieux à l'ancienne, comme pouvait y avoir dans les vieux films, avec ses effets spéciaux un peu désuets. Ça me fait penser justement au Diable amoureux et autres films jamais tournés par Méliès, de Velman et Duchazeau. Ah, si on en parlait.
Fabien Velman est très présent quand même aussi dans nos...
Dans nos podcasts. Ouais, ouais. Velman est... Ouais, on reviendra sur Warren Ellis aussi, qu'on a encore réussi à caser dans ce podcast. Faut que j'arrête de
Alors
dire
donc,
Warren Ellis.
Le Diable amoureux, vas-y. Qu'est-ce que tu en penses? Parle-nous-en. Vas-y.
Alors, déjà,
le pitch.
Déjà, le pitch. Le Diable amoureux et autres films jamais tournés par Méliès, ce sont une succession d'histoires courtes. Il y en a 5 ou 6, hein, il n'y en a pas
ouais,
des tonnes non plus.
Ouais, 6, ouais.
Qui essaye d'imaginer des aventures qui seraient arrivées à Méliès et dont il n'aurait pas réussi à faire des films. On est dans un côté un petit peu... absurde, mais c'est pas le mot que je cherche. C'est fantaisiste, voilà. C'est plus fantaisiste qu'absurde. On a une sorte de monde imaginaire qui va se coller à notre monde à nous. Le terme générique maintenant pour définir ce genre, c'est de l'urban fantasy. C'est ce qu'on dit maintenant, c'est un peu ce que fait Gaiman, tu vois, mais là... Et on a ce ton Bah, Méliès, quoi, début du XXe siècle. Histoire qui ont l'air un petit peu tirée par des ficelles, parce que c'est les moyens de l'époque. Et un dessin de Duchazot, très très noir, très à l'ancienne, que j'aime beaucoup, en fait, comme style.
Donc ça convient bien au scénario, ça convient bien à l'histoire et à l'époque. Donc du coup
Donc c'est du
ça.
noir et blanc. C'est un superbe ouvrage, hein, avec une couverture, avec dos toilé. Enfin, ça s'empête un peu, hein. Et donc, je l'ai lu il y a un petit moment, donc j'ai plus des histoires en tête. Vas-y, donne un exemple d'une de mes aventures de Méliès.
Une histoire, c'est aussi par exemple une comment ça s'appelle? Justement dans les découvertes de l'époque, par exemple une photo de la Lune où une dame de haute société voit une ombre sur la Lune qui ressemblerait à un homme et elle va voir un voyant pour essayer justement, un médium pour essayer de rentrer en contact avec le fantôme de la Lune. Fantôme de la Lune qui va raconter toute son histoire, qui va dire qu'en fait les rats étaient à deux doigts de conquérir le monde, mais bon qu'ils ont raté finalement parce que lui il a été envoyé sur la Lune. Avec un grand canon, et il était dans l'ogive du canon, et finalement, en fait, il va s'apercevoir que, j'y arrive, il est le fantôme de la Lune, et il demande, mais est-ce que les rats ont gagné? Et non, en fait, il y a eu une grande famine, et tout le monde a bouffé les rats jusqu'au dernier, et là, la fin, c'est juste bien fait pour leur gueule. Voilà, c'est le style d'histoire qu'on peut trouver à l'intérieur, il y en a donc plusieurs, il y a aussi la... Qu'on s'appelle ah la nuit du la nécropole mécanique où tout le monde est remplacé par des robots.
Oui, enfin, c'est très varié,
C'est
c'est
très
très
voilà.
fantaisiste, c'est très joli, il y a un petit côté poétique, je veux dire, cette sorte de science-fiction naïve.
Bah, cette science-fiction de l'époque quoi où
Ouais.
tu avais toutes les révolutions enfin le début du siècle enfin début du 20e, tout était possible quoi, tout le monde s'imaginait que
En l'an 2000, les voitures voleraient.
voilà enfin la fée elle est...
Salaud.
La fée électricité, quoi. C'était. Tout va changer grâce à l'électricité, on fait des découvertes dans tout, c'est.
Et c'est intéressant de voir Méliès qui est un protagoniste au milieu. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit qu'il s'est vraiment documenté sur Méliès, parce qu'on reconnaît des. Enfin, si on connaît un petit peu l'histoire de Méliès, on reconnaît des périodes de sa vie. Les premières scènes, on le voit en train de vendre des confiseries et des jouets, alors que c'est comme ça qu'il a fini sa vie, hein, alors qu'il est considéré maintenant comme un des plus grands inventeurs du cinématographe. J'ai trouvé donc vraiment très sympa, un bouquin agréable à lire, qui se relit même en plus facilement parce que bah, les dessins sont très sympas.
Bah surtout c'est les petites histoires, donc ça se lit vite. On peut en lire une petite, on reviendra ensuite dessus.
Voilà, et
Mais un bon
donc
petit bouquin sympathique qui ramène un petit peu aux temps anciens.
aux temps anciens, oui.
Et là, pour revenir aux temps anciens, nous allons revenir donc dans du presque neuf et nous allons parler de temps très anciens où il y avait des dieux et des anciens dieux et des valkyries.
Ouais, oh, mais là t'as enchaîné à l'envers, on devait pas passer à celui-là.
Attends, et je te trouve une transition de
Ouais, mais
folie!
c'était pas sur celui-là qu'on devait passer. On devait finir par ça. Ah, on repasse. Transition de folie. Oui, c'est vrai que les histoires dans ce bouquin sont un peu tragiques. On est un peu dans la tragédie, la tragédie grecque, tu vois, comme le Y de I, le grec, le dernier homme. C'était pourri, hein, celle-là.
Ouais, celle-là était pour la mienne, était mieux. Donc, Y, le dernier homme. Donc, bien.
Tragédie. C'est le titre de l'album. Eh, t'as vu, j'aurais dû le faire avec le titre de l'album.
Tragédie grecque.
Oui, tragédie grecque.
Donc tu peux dire tragédie.
Ouais.
Donc dernier tome de la série des Y, le dernier homme,
Tome
de
10.
tome 10. On rappelle juste le pitch, donc tous les hommes sont morts en même temps un certain jour,
Tous les
sauf
mâles,
tous
parce
les,
que.
bah, tous les hommes.
Oui, mais tous les mâles, ça touchait aussi les animaux.
Oui, enfin tout le riz.
Voilà. Je t'ai dit, arrête de lever rouler des yeux, hein?
Ouais, arrête de rouler les yeux, c'est ça. Donc tous les mâles donc sont morts donc de toutes les espèces animales. Est-ce que ça a fonctionné aussi pour les végétaux?
Je ne sais pas.
Voilà, hein, donc ils sont donc tous morts en une seule fois et sauf un qui a survécu avec
Son singe, son capucin.
son capucin qui s'appelle
Esperluette.
Esperluette. Et donc lui a passé donc les quelques années qui ont suivi, on va dire cette tragédie, à essayer de retrouver sa petite amie qu'il avait perdu, qui était elle en Australie pendant que lui était aux États-Unis à ce moment-là.
Aux États-Unis. Et dans le tome précédent, le tome 9, en gros, ce qui a été résolu, c'est l'intrigue, je dirais, générale. C'est pourquoi est-ce que les hommes sont morts et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de sauver l'humanité. Voilà, l'intrigue générale a été résolue. Et donc on a un dernier tome, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont nous raconter vraiment dedans? Eh ben, Yorick, le héros de cette histoire, va enfin retrouver Elisabeth, Betty,
Betty.
ouais, Betty, voilà, la femme qu'il aime. Il abandonne son garde du corps, 355, parce qu'il n'a plus besoin de garde du corps, en lui disant d'essayer d'avoir retrouver sa vie. Et oh, j'ai des frissons rien que d'en parler, tellement il est terrible ce volume. C'était.
C'est l'émotion.
Non mais voilà, bon, enfin, c'est fantastique, c'est beau. Les dessins sont très simples. Les dessins de Pia Guerra sont pas. Je peux pas dire qu'ils sont exceptionnels, mais ils collent bien. Ces personnages font bien transmettre les émotions. Il y a surtout un des cadrages, une mise en page qui marche super bien et qui nous prennent dedans, quoi. C'est une conclusion terrible et à la fois humaine parce que c'est une conclusion qui va parler du héros. C'est la conclusion de l'histoire de Yorick. Donc c'est un recueil, hein. La dernière histoire s'appelle Alas, donc qu'on traduirait par Hélas, et ramène forcément à la citation de Shakespeare très connue qui dit Hélas, pauvre Yorick. Plus le tragédie grecque en titre, ça nous annonce que
Ça va pas finir bien, quoi.
ça va pas non, mais
Enfin, ça finit, ouais, c'est des.
ça finit pas si mal que ça en fin de compte. Mais c'est pas joyeux. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'amuse à nous faire une petite. Alors, je spoile pas vraiment, mais il nous faut une projection sur l'avenir, sur ce qui va se passer de
Dans
nombreux.
60 ans, la société est
Voilà.
reconstruite.
Voilà, 60 ans après, comment redevient la société. Donc, on apprend beaucoup de choses sur comment les choses évoluent. C'est beau, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu peux rajouter à ça, Thio?
On le dit, on est honnête. Enfin, j'ai versé ma petite larme, quoi.
Oui,
Il y a
oui.
deux, trois moments dans le bouquin. Bon, au bout de 10 tomes, si on n'est pas un peu attaché au personnage, on n'est pas. Voilà. Et il y a des moments où on verse quand même sa petite larme. Et on va, je dirais, pour une fois, on verse pas une petite larme dans le sens où c'est un attachement au personnage. C'est qu'en fait, on est touché par les sentiments qui touchent le personnage. Je sais pas
Oui.
si vous voyez l'idée du truc. C'est que les sentiments qui touchent Yorick, en fait, finalement, arrivent à nous toucher nous
On
aussi.
s'identifie facilement à Yorick, en fait. Le personnage est suffisamment bien écrit pour qu'on puisse s'y identifier assez facilement. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est aussi des jeunes un peu geeks, comme lui peut l'être au début de
C'est peut-être
l'histoire.
ça, on retrouve un petit bout de
Hein.
nous-mêmes dans lui, c'est ça.
Voilà, je ne sais pas si une fille. Enfin, la série plaît beaucoup aux filles aussi, en général. Donc, Brian Cavaghan confirme qu'il est un grand scénariste.
Et
franchement.
il finit magnifiquement sa série, hein.
Voilà.
Ce qui n'était peut-être pas aisé au début.
Je savais pas comment il pouvait finir cette série bien.
Ouais.
Je savais pas. Et là, j'ai été sur le cul. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Toujours des couvertures superbes à l'intérieur de Massimo Carnaval, qui encore s'essaye à des styles sortis du néant. Plein de styles très variés sur ses couvertures, mais avec toujours son petit côté en Y dedans. Arrête de montrer les pages qui font pleurer. Arrête, arrête! Oui, toujours ces couvertures en Y. Enfin bref, on va pas s'attarder plus longtemps que ça dessus. Je cherche la transition.
Bah, c'est beau, ça pète, voilà, c'est tout. Tout ce qu'il faut retenir. Je dirais, c'est voilà, une belle série en 10 tomes, certes, mais
13 euros le tome, c'est ça?
15 euros.
15 euros.
Ça fait 150 euros, hein. Ça fait quand même un gros cadeau, mais une très 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 bonne série.
Voilà. Je suis ravi d'être arrivé au bout et je pense que je la relirai volontiers. Il y a eu quelques périodes de creux pour revenir un petit peu sur l'histoire, mais c'est vrai que sur une longue série, il y avait des choses à développer sur les personnages qui demandaient d'avoir peut-être un petit peu du ralentissement dans l'intrigue. Si on fait un peu le bilan, hein, de cette série.
Bah, disons que c'était obligé que tu aies un petit peu des tomes où il y a un peu plus d'action, des tomes où tu retrouves un petit peu plus d'introspection, parce que tu avais à la fois l'histoire de pourquoi tous les hommes sont morts,
Oui.
et justement essayer de reconquérir, on va dire, enfin de trouver un moyen de survivre pour l'espèce humaine, et on va dire même pour toutes les espèces en général, mais aussi tu avais l'histoire personnelle de Yuri qui se développe petit à petit, qui va évoluer au fur et à mesure.
Lui évolue énormément.
Un grand coup de pied au cul, mais il est bien obligé, quoi.
Bah, en gros, c'est un ado qui devient adulte, hein, clairement.
C'est ça, c'est ça. Et donc là, on va revenir dans la période adolescente de Daredevil, c'est là.
Période adolescente de Daredevil. Oh, vas-y, vas-y, fais ta transition.
Transition pourrie, parce que de toute façon, c'est pour un tome pourri. Hein, donc, Daredevil, donc le nouveau, donc de Brubaker et Lark. Comment dire?
Allez,
Bon.
qu'est-ce que ça raconte?
Qu'est-ce que ça raconte? Donc, on a Lady Bullseye qui revient, enfin qui
Qui
arrive,
vient, parce
qui
qu'elle
vient,
n'existait pas, c'est un
elle
nouveau
n'existait
personnage.
pas, c'est un nouveau personnage, et qui va donc essayer de faire une vie totalement. Qui va essayer de faire une belle vie encore à Daredevil, qui visiblement ne peut pas vivre convenablement et être heureux juste 2 minutes de sa vie. Mais.
Ce qui serait vraiment pas original, c'est qu'il tombe amoureux d'elle.
C'est ça. C'est ça. Si, il a une histoire avec Dakota aussi.
Oui, il y a une histoire avec Dakota.
Il a couché avec Dakota.
Mais alors apparemment, il a fait que coucher. Hein. C'était genre...
Et alors que sa femme est internée à cause de lui.
Oui, sa femme
Voilà.
est... Disons que, oui, le pitch, en gros, bah, il essaye de se reconstruire petit à petit, hein, parce qu'il y a son cabinet qui revient, etc. Et apparemment, il y a la main qui essaye de revenir en ville.
C'est ça, c'est ça.
Pour chercher, on ne sait trop quoi exactement. Et il y a Lady Bullseye qui bosse pour la main, et qu'on apprend qu'en gros, c'est une fan du Bullseye original, donc c'est le tireur en VF.
Oui, parce que Boussa, il l'a libéré.
Voilà quand elle était jeune. Bah moi j'ai trouvé ça sympa. Qu'est-ce que t'as pas aimé?
Bon, alors peut-être, est-ce que c'est un goût, tu vois, c'est la comparaison avec l'ancien. J'ai trouvé que voilà, le scénario était plat.
L'ancien de Brubaker ou l'ancien
Non,
d'avant?
l'ancien d'avant, excuse-moi,
Ouais,
voilà,
Bendis, ouais.
voilà, Bendis. Bon, vis-à-vis des dessins, j'ai rien à dire. Hein, ça reste quand même excellent, c'est dynamique, c'est. Mais au scénario, voilà quoi. Allez, on a fini avec un truc. Bon, ben, plutôt que, je sais pas, d'essayer de sortir un peu de faire un truc original. Ouais, ok, on vous ressort un nouvel ennemi. Et on repart sur, bon, ben, on va le remettre dans la merde et on va voir ce qui se passe.
Enfin, quand tu apprends ce que veut le nouvel ennemi vers la fin de l'épisode, il y a quelque chose d'assez intéressant quand même.
Ah mais ça m'a même pas, tu vois, et ça m'a même pas mis les poils droits sur les bras.
Ah ouais?
Ah mais ça m'a fait, mais c'est passé comme une lettre. Bah, ouais, voilà, je l'ai lu, quoi. Enfin, là, pour moi, je le classerais même dans du easy reading.
Ouais. Ah
Bon,
ouais,
après,
juste.
voilà, c'est. Bon, je veux dire, je suis rarement, on va dire. À jeter un
Oui.
truc, mais là, celui-là de
Alors,
Daredevil.
est-ce que ce serait pas parce que les précédents étaient tellement bien
C'est
que...
ce que je te dis, peut-être que c'est voilà, c'est la comparaison avec les anciens qui fait que du coup, j'ai pas envie. Enfin, je visais plus haut, quoi. Et là, grosse,
D'accord.
grosse déception.
Bon, bah on verra si sur les tomes suivants... J'en ai entendu encore du bien des tomes suivants, j'ai même eu droit à un peu de spoil intéressant, mais bon,
À
nous
voir,
verrons bien.
à voir.
Voilà, donc en gros, pour toi, c'est un peu l'angoisse de dire ce truc-là.
C'est ça, voilà. Attention à la transition parce que celle-là, elle va vous faire mal.
Donc nous passons à, puisqu'on parle d'angoisse, nous passons à Eddie l'angoisse de Richard DiMartino, qui est sorti aux éditions
Discover.
Discover.
À 19,50 €.
Voilà. Donc, c'est l'histoire d'un jeune qui... Donc c'est un truc pas tout récent, hein. Oui, pardon, on est passé, on a changé de rubrique en fait.
Oui, là on est sur du
Rattrapage.
rattrapage.
Donc bah, c'est l'histoire d'un... Oui, quoi, hein?
Juste un petit truc, n'oublie pas qu'on a quand même le transmétro à passer aussi.
Ah oui, on a le transmétro, on a oublié, c'est
Donc là, t'as
vrai.
fait une transition pourrie pour un truc qu'on ne va pas faire tout de suite. On fait Eddie l'angoisse,
On fait Lady
on
Angoisse
fait
et
Lady
on
l'angoisse.
repassera à Transmétro juste après. Donc, ouais, ça va être facile. J'ai déjà la transition en tête, ça va être terrible. Donc, Eddie l'Angoisse raconte l'histoire d'un jeune qui a un groupe de musique et qui veut devenir célèbre. Je crois que j'ai bien résumé.
T'as bien résumé, ouais.
Et voilà, c'est une histoire du quotidien, c'est une histoire simple, hein. On suit un peu toutes les petites galères que peut avoir un jeune pour monter son groupe, pour s'en sortir avec tous les membres, pour essayer de sortir son disque, pour faire des concerts, pour choper du producteur et compagnie. Les difficultés que c'est surtout, et puis surtout toutes les illusions qu'on se fait quand on est jeune et qu'on a un groupe. C'est l'impression que j'ai eue. Alors c'est un peu du vécu pour l'auteur, hein, Richard Di Martino, entre guillemets, parce qu'il était membre d'un groupe avant de devenir dessinateur à plein temps. Donc il était membre d'un groupe pendant quelques années. Moi-même, ayant un frangin qui est membre d'un groupe, j'ai beaucoup reconnu pas mal de choses aussi dedans.
Là, disons que ça sent le vécu, quoi. Là...
Voilà. Et alors, les dessins. Les dessins, on a connu Richard Di Martino plus en forme. Clairement, c'est quelque chose qu'il a fait vite fait. Je pense parce qu'il voulait donner son impression, quelque chose de dynamique, mais c'est pas le plus classe et le plus propre. C'est pas des dessins propres là, en fait, clairement. Hein, c'est les cases sont dessinées à l'arrache au crayon, elles sont pas tracées droites.
Ouais, mais c'est, enfin, c'est dans l'ambiance.
C'est dans l'ambiance. C'est rock'n'roll.
C'est ça.
C'est la... rock'n'roll.
La rock'n'roll attitude. Vas-y.
Voilà. Mais ça colle bien au propos, en fin de compte. Et puis moi, c'est surtout le scénario, quoi, qui m'a bien plu, parce que on sent vraiment, on est proche de, on sent proche de ce groupe. Enfin, c'est peut-être parce que mon frangin est dans un groupe, j'en sais rien.
Ouais, peut-être, ouais, parce que voilà, on a
des connaissances dans des groupes. Enfin, je crois que tout le monde connaît quelqu'un qui est dans un groupe,
qui veut réussir et qui veut faire ça toute sa vie.
Et que son groupe, c'est le meilleur du monde et qui va devenir riche et célèbre. Voilà.
Bon. Sinon, pour le bouquin, en tout cas, en lui-même, déjà, c'est un beau bouquin.
À 20 euros...
Oui, 20 euros, il peut péter, mais je trouve quand même que c'est une belle jaquette.
Belle jaquette avec les bords arrondis.
Les bords arrondis, je trouve que ça pète.
Ouais, ça pète, avec le marque-page dedans. Ça fait un peu luxe, papier glacé. C'est beau. Bon, il faut savoir, j'avais discuté avec Richard Di Martino sur une dédicace, et il disait que lui, il voulait sortir un truc en noir et blanc, pas cher, et que l'éditeur a dit « ça marchera mieux comme ça ». C'est pas forcément faux, mais c'est vrai que ça fait moins rock'n'roll ce côté un peu luxe. Hein.
Oui. Enfin. Oui, mais bon, ça passe. Une bonne petite histoire sympathique qui prête à sourire des moments, des fois qui est un peu plus rude, un peu plus velu. Et comme c'est velu, c'est ça, non ?
J'attends ta transition.
Je faisais pas de transition, j'ai juste mon avis dessus.
Ah, non, je sais que t'allais nous faire une transition, un truc comme ça.
Non, c'est que voilà, c'est sympathique à lire. Voilà, bien mieux que Daredevil.
Bien mieux que Daredevil.
Et donc en couverture, on peut voir qu'il y a donc un personnage qui est juste derrière Eddie Langoisse et qui a des longs cheveux, qui est très 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 velu du coup de la tête, c'est ça. Et là, tu reviens, vas-y, enchaîne sur les.
Ah, mais je croyais qu'on allait attaquer sur Transmettre maintenant.
Ah, mais tu es nul. T'es nul, non, t'es nul. Allez,
tu voulais pas qu'on attaque Transmettre maintenant?
Vas-y, fais du Transmettre.
Franchement, on fait tout dans le désordre aujourd'hui, c'est du n'importe quoi.
Mais tu as fait Eddie Langoisse, on finit là-dessus.
Bon, on se garde Transmettre pour la fin.
Ah oui, c'est la fin.
Et donc, c'est velu comme une touffe de Valkyrie.
Voilà. Elle était pas capillotractée, celle-là.
Donc... Oui, voilà, j'ai fait ta transition. Nous allons parler de Homme qui pleure et Valkyrie de Monsieur le Chien. J'aime beaucoup Monsieur le Chien. J'aime beaucoup ses bandes dessinées sur son blog, que je trouve débile à souhait. J'avais beaucoup aimé Féréus le Fléau.
Féréus.
Et il a fallu que je m'offre l'autre BD de Monsieur le Chien, qui s'appelle Homme qui pleure et Valkyrie. C'est à toi de faire le pitch de cette histoire improbable.
Déjà, je pense qu'il faut déjà, je pense, marquer une pause avant même de parler du pitch, juste sur la couverture, qui est déjà une invitation au voyage, une sorte de... Ouais, une sorte d'hymne lyrique qui vous replace carrément dans un univers un petit peu de l'opéra. Voilà. De suite, j'ai vu la chevauchée des Valkyries qui sont là avec leurs petites sandales en plastique et toutes les larmes du corps d'un homme qui justement pleure les Valkyries avec des roses sur son lit, ses petites chaussettes. Enfin, c'est trop beau, quoi. Non, enfin bon. Oui. Passons donc sur l'histoire. C'est qu'en fait, c'est juste Monsieur le Chien qui est contacté par des Valkyries qui voudraient donc qu'il écrive un guide de l'amour pour leur dieu Wotan qui doit revenir, mais comme ça fait un petit peu plusieurs siècles qu'il n'a pas touché d'humain, ils aimeraient quand même qu'il lui fasse une sorte de
d'humaine, là pour le coup.
Oui, d'humaine, qui lui fasse un petit guide pour qu'il se remette un petit peu au goût du jour et qu'il évite juste de leur éclater la tête pour leur dire qu'il veut coucher avec elle.
Et c'est Monsieur le Chien donc, c'est Monsieur le Chien donc, qui est chargé d'origine ce guide, il a un temps limité, et qui donc va demander des conseils à son collègue qui baise à tour de bras, qui... Enfin, c'est du n'importe quoi, on est dans une histoire complètement débile. C'est ensuite classé par petites rubriques, qui... vraiment on est dans le guide, quoi, hein, avec des leçons de choses.
Donc, sorte petit rappel à ce moment-là quand même sur les leçons. Pour un certain groupe de lingerie qui fait des leçons aussi.
Oui.
Avec des magnifiques photos, un petit peu, des petits polaroïdes.
Ah, Monsieur le Chien en string.
Voilà, c'est...
C'est très drôle. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a un ton... Alors, faut aimer quand ça part n'importe nawak. Le string marsupilami, c'est la classe.
Le string marsupilami, je trouve qu'il pète.
Voilà.
Et puis, en plus, tu vois, la réputation... C'est l'haleine de la drague. Parce que sur chaque polaroïde, il y a une sorte de petit dicton. Voilà. Leçon numéro 4, soignez sa légende. Et donc, la réputation, c'est l'haleine de la drague.
C'est absurde, c'est débile. C'est... Enfin, moi, je... Vas-y.
Beau pantalon fait belle moisson.
D'accord, oui. C'est... Je veux dire, avec ce genre de conseil-là, c'est sûr, quoi.
Et small is beautiful.
Ah. Voilà, vas-y, tu as tout les faits.
Non, on va arrêter là, mais...
Donc, c'est un bouquin très sympa. Moi, j'ai trouvé ça débile, mais ça vaut le coup à lire. Si vous aimez l'humour un peu capillotracté et qui part un petit peu dans tous les sens, ça vaut le coup. Vas-y, tu es en train de relire des bouts. Voilà, tu es mort de rire.
C'est l'épisode où il y a Danton qui lui dit « Ouais, tu montreras mes fesses. » Et puis finalement, le bourreau est sympa et en fait, il monte la tête de Danton. Tu
dis, ah oui.
Tu montreras... Ouais, pour dire Robespierre enculé, enfin bon. Des trucs, voilà, c'est complètement varié à des moments. Tu te demandes où est-ce qu'il est allé chercher l'idée, mais l'idée fait rire. Voilà. Bon, après, les Valkyries ont quand même un gros souci.
Elles sont velues de la touffe. Hein.
Elles sont velues de la touffe.
Je crois qu'on peut le dire comme ça. Hein, c'est... Et les dessins sont sympas, en fait. Surtout, oui, disons-le tout de suite, tout de go. Disons-le tout de go. Les dessins sont très sympathiques. Ces Valkyries sont charmantes, ne le nions pas. Comme je suivais son blog, il faut savoir aussi que dedans il y a des jolies images de pieds, jolies photos de pieds. Ce sont des photos des lectrices du blog, car Monsieur le Chien avait fait un appel à ses lectrices pour envoyer des photos de pieds. Un petit côté fétichiste, tu vois.
Du pied,
voilà, chacun son truc. Bref, c'est une histoire sympathique et j'ai pas de transition.
Mais qui doit avoir une fin, et comme toute fin, nous allons parler de la fin de Transmétropolis.
Je crois que c'est peut-être... C'est pas la pire d'aujourd'hui.
Oui, pas mal celle-là. Écoute, là, voilà, on parle quand même du summum, quoi. Là, on place un truc.
Je veux dire, on finit deux putains de séries aujourd'hui. Hein. Y et Transmétropolitane. Transmétropolitane, c'est le bébé de Warren Ellis. Et je te laisse nous pitcher ce qui se trouve dans ce tome que nous n'avons pas, car nous l'avons prêté à un ami qui n'a pas pu patienter que nous ayons fait ce podcast pour le lire.
Donc du coup, en fait, on n'a plus le bouquin, donc on va tout faire de mémoire. Le pitch, eh bien, c'est le sourire, on va revenir, hein, donc de Spider Jérusalem, un journaliste très engagé, sur tout ce qui touche à la société.
Peu engageant. Et...
Ça dépend quel soir. Et... Donc, qui a enquêté longuement donc, sur un des candidats au présidentiel qui s'appelait Le Sourire.
Oui.
Et donc, ce candidat ayant été élu, il essaye donc plus ou moins de remonter tout ce que ce personnage a pu faire, on va dire, d'interdit. Et Spider Jérusalem est arrivé au point où il tient Le Sourire, le président, par un appendice qui est situé sous la ceinture. Et il est en train de quasiment le mettre à genoux pour le faire destituer.
Sachant qu'il est quand même bien mourant, hein, notre Spider Jérusalem.
Sachant que Spider Jérusalem donc, est mourant.
C'est son dernier coup.
C'est son dernier truc qu'il va faire toute sa vie. Il va crever ensuite. Mais
il va, j'allais dire enfler, mais je pense que c'est enfilé aussi. Ça pourrait être le terme. Le président des États-Unis.
Les termes vont bien avec le sujet. Hein. Là, on est.
Voilà, on est raccord.
On est raccord. Donc, ce dernier tome commence en fait par. Une sorte de longue lettre de Spider Jérusalem au monde entier qu'il a conspué pendant de longues années et où il va donner son avis sur beaucoup, beaucoup de choses.
Alors, c'est très intéressant. En fait, le début, ce sont deux hors-séries qui ont été regroupées, des hors-séries avec des illustrations d'auteurs différents. Hein. C'est Darick Robertson qui dessine toute la série. Mais là, on a plein d'auteurs différents qui font des dessins pour illustrer un article que Spider Jérusalem aurait écrit pour le Word, qui est le journal pour lequel il travaille. Ce qui est très intéressant, c'est surtout que ça permet de revoir toute la série.
Oui.
On a un résumé super bien fait, super intéressant, avec la vie de Spider Jérusalem, très engagé, très trash et très violent.
Ses assistantes, ses deux fidèles assistantes.
Oui. Ses deux fidèles assistantes, terribles aussi. Et enfin bon, c'est pas mal déjà pour se remettre dans le bain. C'est vrai que avant de lire un final, j'aime toujours avoir un moyen de me souvenir, soit tout relire avant, mais il y en a quand même pas mal hein, pour les transmettre. Hein. Soit avoir une sorte de résumé intelligent. Et là, le résumé est très intelligent parce que c'est des articles qui sont censés être parus dans le journal. Et en fait, il y en a peut-être un ou deux qui étaient déjà dans la BD, mais la plupart non. Quoi.
Bah, disons que ça fait un petit peu, on va dire, le dernier article de Spider Jérusalem. Quoi. Voilà, il fait un peu le bilan de sa vie, on va dire.
Voilà. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est graphiquement, c'est qu'on a un nombre d'auteurs, mais qui viennent de tous les horizons. On peut avoir du méga dessinateur de blockbuster à la Jim Lee, avec à côté des gars qui, genre, je crois qu'il y a Guy Davis qui fait un truc, donc des trucs un peu plus underground, des auteurs dont j'avais jamais entendu parler et dont certains sont exceptionnels. On a même, et moi c'est quelque chose qui m'a marqué, Bendis, qui est donc un scénariste connu, mais qui est dessinateur quand même à la base, qui reprend le crayon pour dessiner sa vision du Spider. Et puis des dessins vraiment toujours bien en adéquation avec le dialogue,
ouais.
Toujours un peu trash. Hein. On trouve aussi certains auteurs qu'on n'attendait pas à voir dans le trash. Alors j'ai plus les noms en tête malheureusement parce qu'on n'a plus le bouquin sous les yeux. Mais bref, c'est un peu la première partie de la première moitié hein, quasiment du.
Première moitié, ouais, enfin bien la moitié du dernier tome. Et ensuite donc on arrive vraiment dans l'histoire avec eh bien la. On peut, c'est pas spoiler quoi, c'est la chute du sourire et on va dire la retraite de Jérusalem.
Voilà, en parallèle. Et puis aussi le passage de relais,
oui.
Une de ses assistantes.
Qui va devenir, entre guillemets, la nouvelle.
Voilà, la nouvelle découvreuse de vérité.
C'est ça.
Voilà. Alors, sur ce final, que dire on est bien dans la continuité. Rien à dire, toujours le même ton, trash, très dénonciateur, toujours des allusions à la politique américaine de la vraie derrière, toujours des idées et des inventions un peu débiles et un peu géniales. On revient un peu sur tous les trucs, les gens qui se font transformer en fumée, les trucs comme ça qui reviennent un petit peu dedans. Et une chute. Qui est dans le ton, comment dire, c'est dur parce que, je veux dire, il n'y a pas de grand mystère révélé à la fin ou quoi que ce soit, hein, c'est pas du tout le thème de la série. Le thème de la série, c'est que on connaît la vérité aussi bien que Spider Jérusalem, mais on veut prouver que c'est la vérité. Donc il n'y a pas de grand secret, de grande révélation, mais c'est une jolie fin. Disons que, voilà, pour moi, Spider Jérusalem fait son dernier fuck à ses lecteurs.
Et pas que.
Voilà, donc le dernier Transmet, qui coûte, je crois, 25€. C'est pas donné, mais ça vaut vraiment le coup. Transmet, c'est 6 tomes aussi. Et c'est une série qui vaut vraiment le coup. D'ailleurs, on n'a plus beaucoup de séries qui valent vraiment le coup à lire en ce moment.
Eh ouais, parce que vu que Daredevil est devenu mauvais, maintenant voilà, on est vraiment employé en stock. Hein.
Non, mais on a de nouveaux trucs qui vont arriver. Il y a Invincible qui recommence. Là. Enfin, tu vas voir, il y a des trucs bien. Voilà, et donc... c'est sur la fin de cette bande dessinée que nous arrivons à la fin de ce podcast. La transition de folie pour le final.
Ouais, enfin, on a dit que voilà. Aujourd'hui, on a dit on va travailler les transitions, ouais, mais visiblement, on n'est pas bon, quoi.
Non, mais je crois que on va oublier l'idée. On va les écrire à l'avance, je sais pas.
Oui, on les fera comme d'habitude. Ce sera mieux.
Voilà. Bien, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 15 jours avec encore plein de lectures. On a pas mal de bonnes choses à venir. Vous pouvez nous écouter sur le blog blog.jeudepied.org comme d'habitude. Vous pouvez me suivre sur Twitter OneNailPied, ou bien alors vous pouvez aussi nous aimer sur Facebook, facebook.com/oneaiclub. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur iTunes, ça nous fait plaisir, c'est un peu comme ça qu'on se nourrit, que nous avons l'envie de continuer, enfin ça fait toujours plaisir quand on dit qu'on nous aime. Vous pouvez aussi dire que vous ne nous aimez pas, et bien rien que pour vous embêter, on continuera quand même. À bientôt.
C'est bien dit.
À bientôt, à dans 15 jours, merci de nous avoir écoutés, bye bye.
Ciao.